Est-ce que on pourrait commencer par des réactions d'autres membres de centres sociaux qui ont rencontré Engagir en acte? Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres questions éventuelles de centres sociaux qui n'ont pas eu cette chance. Ah, mais c'est celui-là qui marche pas.
Moi, j'ai juste envie de nous interpeller dans le réseau Région Centre, c'est de se dire là on a eu des témoignages de centres sociaux déjà largement impliqués dans le réseau fédéral, que ce soit dans les différentes instances proposées par la Fédé, comité départemental, comité régional. On a aussi des centres sociaux qui ne sont pas autant impliqués dans la dynamique fédérale régionale. Et je me dis que ce serait intéressant, il faut qu'on pense aussi à la manière de la mesure des effets des centres sociaux qui sont un peu plus éloignés, si je puis dire, de la dynamique régionale. Parce que ce soit l'Arabière, comme le centre social du Pont-Bordeaux, ils ont rappelé qu'ils sont aussi largement impliqués dans le projet. Donc déjà, voilà, toute cette question, elle est menée régulièrement. Quoi.
Du coup, pour poursuivre, je ne sais pas si c'est vraiment le moment de dire ça pendant ces deux jours, mais pour poursuivre, ce serait peut-être aussi intéressant de mener des enquêtes et continuer le projet sur des centres sociaux qui ne sont pas de la fédération. Et je pense notamment dans un lieu où je suis passé il y a 2 ans, qui s'appelait le centre social autogéré à Ivry-sur-Seine. Et du coup, c'était dans aucune fédération ni rien, mais ça pourrait avoir le mérite de voir si c'est pas lié à d'autres contraintes. Typiquement, ils n'ont pas les contraintes du financement, donc ils peuvent parler politique et ils n'ont pas ces contraintes-là, mais ils peuvent avoir des contraintes de temps et de court terme, parce que c'était des lieux qui étaient souvent menés dans l'illégalité. Du coup, ils sont plus dans le court terme et donc c'est d'autres contraintes. Mais ils n'ont, encore une fois, pas les contraintes de financement et de la neutralité politique. Et ça serait aussi intéressant de savoir si ces centres sociaux ou ces lieux qui se disent centres sociaux ont un effet sur les habitants et le voisinage, ou si c'est encore une fois un noyau dur ou un comité restreint qui s'accapare ce pouvoir d'agir, ou si au contraire les habitants s'accaparent ce projet.
Oui, ce qui est, juste pour à la fois répondre en partie là-dessus. Oui, bien sûr, c'était aussi un des objectifs d'Engagir, de pouvoir, non pas comparer, mais en tout cas avoir des éléments sur des centres sociaux qui avaient des statuts différents, associatifs, gestion CAF, municipaux. Pour des raisons en partie indépendantes de notre volonté, on n'a pas pu mener ce projet à bien de manière aussi aboutie qu'on aurait voulu. C'est-à-dire qu'au bout du compte, du fait de la défection de 2 collègues et de la difficulté, voire de l'impossibilité de fait à les remplacer au pied levé, on n'a pas trop cet élément de... On a moins qu'on aurait souhaité cette dimension de diversité de mode de gestion ou de gouvernance, où les éléments qu'on a en tout cas sont... Si on a un seul centre social qui est dans une configuration particulière, c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui tient à son mode de gestion, qu'est-ce qui tient à l'histoire locale ou à l'histoire de la structure. Et donc voilà, c'est d'un point de vue sociologique, c'est pas très significatif si on n'a qu'un seul centre d'en tirer des conclusions très fermes sur c'est parce que c'est un mode de gestion municipal ou associatif ou CAF que ça produit ce genre de choses, alors que ça peut provenir, voilà. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à déployer cette dimension-là autant qu'on l'aurait souhaité. Après, de manière plus générale et pour relier aussi à des choses qui ont été évoquées ce matin, Oui, ce serait intéressant de comparer avec des centres sociaux autogérés ou avec des centres sociaux qui ne sont pas autogérés mais qui, par exemple, adoptent un statut de coopérative et pas d'association, par exemple, avec à la fois parce que c'est un modèle qui, d'un point de vue économique, est moins... prête moins le flanc potentiellement à des formes de dépendance, mais aussi parce que le modèle coopératif peut être plus égalitaire. Ça peut régler aussi quelquefois une partie des difficultés dans les relations entre conseil d'administration, employeur et salarié, parce que dans une coopérative, chacun et chacune a une voix. Et donc ça modifie aussi les relations démocratiques au sein de la structure. Donc oui, je pense que là-dessus, on peut s'appuyer sur tout un tas d'autres travaux qui existent et qui peuvent mettre en lumière l'intérêt d'autres formes que la forme associative. Mais après, votre question, elle a peut-être le... En tout cas, elle m'incite à, comme ça a été dit ce matin, à peut-être pas trop opposer de manière binaire des choses selon laquelle, quand on a le ventre vide, on a les mains libres. Hein. Ce qui est vrai, on a souvent les mains plus libres quand on a le ventre vide, pourquoi pour les centres sociaux. Mais en même temps, le fait d'avoir une structure durable, c'est aussi extrêmement précieux. Ça s'appelle une institution. Et une institution, pour fabriquer de la société, c'est très précieux. Après, la difficulté, c'est comment cette institution qui institue, au sens qui fabrique du social, du faire ensemble, de l'action collective, etc., comment cette institution durable et donc précieuse, parce qu'elle structure des formes collectives, comment elle ne s'institutionnalise pas trop, c'est-à-dire comment elle n'en arrive pas à se penser comme étant elle-même plus importante que son objectif. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive à penser des structures qui sont à la fois durables et donc financées de manière durable? Et après, je pense qu'il y a aussi un enjeu à négocier et discuter avec les partenaires financeurs pour sortir d'une relation de dépendance, c'est-à-dire pour arriver à les convaincre qu'eux aussi, peut-être, ils peuvent penser la question du financement autrement que dans le mode de la dépendance. Et c'était ce qui était dit aussi ce matin à dans une des interventions, qu'on peut peut-être aussi arriver à faire en sorte que le rapport de financement ne fabrique pas nécessairement de la dépendance.
D'autres questions, remarques, objections? Moi, j'avais une question, peut-être pour essayer d'animer le débat. C'est qu'on a bien vu la qualité spécifique de la réflexivité construite grâce à la fédération par le programme Engagir ou avec la fédération par le programme Engagir. La question qu'on pourrait poser aux membres des centres sociaux, c'est est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée qu'il y aurait une qualité spécifique donc, de cette réflexivité, et quelle est la différence entre ces moments de réflexivité permis par les débats avec des chercheurs et d'autres places pour penser l'action et pour penser, y compris d'ailleurs, le positionnement politique des centres sociaux? Est-ce que cette question a un sens? Comment? Traduction, avez-vous besoin de la recherche? Avez-vous besoin de la recherche pour penser? On comprend bien comment là, on a de la recherche qui a pratiqué et des chercheurs pour penser vos pratiques, alors que là, on a bien vu qu'il y a un moment spécifique de truc. Donc la traduction directe, c'est avez-vous besoin de la recherche pour penser les pratiques et pour avoir ce moment de retour? Alors, en dehors du fait que dans l'emploi du temps, il a été dit qu'il était difficile d'organiser ces moments de réflexion, mais ils existent quand même, je pense. Encore une fois, le regard sur les pratiques ne me semble pas être quelque chose qui est limité aux chercheurs. Exactement, que l'enquête sur les pratiques n'est pas quelque chose qui est limité aux chercheurs.
Quelle est la plus-value de la présence du chercheur?
Alors, quelle est la plus-value de la présence du chercheur pour peut-être déclencher ou formuler autrement cette enquête ou être un sparring partenaire dans le cadre d'une réflexion sur les pratiques?
Est-ce qu'il y a déjà eu d'autres recherches, ou est-ce que c'est la première depuis l'existence des centres sociaux?
Bonne question.
micro.
Comme ça.
Parlez dans le micro, c'est comme
ça. C'est la course digestive.
C'est bon.
Je vais lui donner du
coup. Oui, il marche.
Dans le réseau des centres sociaux, il y a des liens avec des chercheurs qui sont de longue date. Une recherche collaborative comme celle-ci, 2 ans sur avec tout ce qui nous a été décrit, il me semble que c'est quand même une première. On a beaucoup plus des liens de compagnonnage avec des chercheurs qu'on va souvent chercher pour venir nous appuyer sur nos intuitions, sur notre volonté d'avancer sur une question. Cette posture-là de vraiment aller interroger, comprendre ce qui est à l'œuvre, de faire ce pas de côté d'une façon un peu durable, et non pas sur des compagnonnages courts. On est d'égal à égal dans la volonté d'aller aborder la question. Je crois qu'elle est exceptionnelle dans l'histoire des centres sociaux. Et en même temps, j'espère qu'elle préfigure de poursuites et de nouveaux rapports qu'on pourrait avoir, d'évolution de nos rapports avec les chercheurs. On a vraiment souvent cherché les chercheurs pour qu'ils viennent nous conforter. Là, je crois que ce que vous avez travaillé là, c'est bosser avec des chercheurs pour réellement s'interroger et sortir peut-être un peu de la dimension parfois qu'on a un peu fantasmée de ce qu'on aimerait produire, et on est en capacité parfois d'aller chercher le bon chercheur qu'on connaît et qui va venir nous renforcer sur le fantasme qu'on a sur une question ou une autre. Je trouve ça assez intéressant vraiment, et c'est une vraie volonté du Conseil d'administration nationale, c'est une vraie volonté d'un certain nombre d'autres fédérations actuellement. À ma connaissance, très récemment, il y a eu sur la question de la mesure de l'impact social de l'approche qu'ont les centres sociaux sur les questions du vieillissement, un travail avec des chercheurs en Vendée de 2 ans aussi, avec 2 doctorantes qui, enfin de 3 ans, deux doctorantes qui ont accompagné et qui ont fait tout un travail avec les centres sociaux sur cette question-là. Donc on voit que ça vient, mais je crois qu'il faut qu'on enclenche encore la vitesse supérieure. Ce qu'on voit quand même, les effets, je suis d'accord avec ce que vous dites, dans les 2 témoignages, il y a certains, enfin, Engagir n'est pas le seul à produire ces effets-là. Par contre, c'est tout un système finalement dans lequel vous investissez pour vous donner les moyens de prendre de la hauteur, du recul, faire du pas de côté, vous questionner réellement, etc. Et du coup, là-dedans, le rapport avec la recherche est certainement hyper utile pour penser nos projets et faire bouger un certain nombre de choses dans nos approches des territoires et du travail avec les habitants.
Du coup, on a beaucoup entendu les retours par rapport à la fédération et puis par rapport aussi aux centres sociaux. Et moi, je voulais revenir sur des terminologies qui ont été utilisées très peu, finalement, depuis ce matin, à mon sens. J'ai entendu adhérent, j'ai entendu bénévole, j'ai entendu habitant. Donc, a priori, ça décrit des réalités différentes. Et je voulais savoir un petit peu les retours que vous aviez de ces personnes-là sur cette question, justement, du pouvoir d'agir, qui, à mon sens, est primordial.
Moi, je rajouterais bien une question sur aussi, on a demandé ce que ça avait changé dans les centres sociaux. Est-ce qu'on peut savoir si ça a changé des choses du côté des chercheurs dans leur pratique ? Est-ce que ça a bousculé les chercheurs dans leur manière de travailler ?
Quelques observations rapides. Est-ce qu'on a besoin de chercheurs ? Posé comme ça, j'ai envie de dire non. Si les chercheurs sont passifs à observer, regarder comme des gens qui font des sondages, là c'est une recherche intervention. Moi je me souviens quand Catherine Neveu est venue à Pluriel rencontrer l'équipe, elle n'était pas là pour juste entendre les questions, mais son questionnement, comme là, sa dernière intervention, interpelle et apporte des savoirs ou des questions qui, vu la formation de la plupart des salariés, les équipes, mais aussi la majorité de ceux qui dirigent le centre social, c'est des questions qui ne s'opposaient pas parce que dérangeantes en lien avec ce qui a été dit avant. Un fait, je le rappelle rapidement, mais on aura l'occasion peut-être de l'aborder demain. Il y a exactement 2 ans, Pluriel était en train de sortir d'une crise et la question se posait entre les salariés des différentes formes d'organisation des centres sociaux. L'évocation de la forme coopérative semblait absurde. Là, personne n'a crié au scandale à entendre Catherine Neveu en disant que c'est possible, pourquoi pas. En 2013, dans cette salle, moi, à ce moment-là, donc j'étais bénévole pour la création de Pluriel, j'étais le seul à poser la question de la gouvernance et de dire que l'une des raisons de l'échec de l'ancien centre social et peut-être même d'autres formes qui ont eu lieu ici à Tours, c'est la forme de gouvernance qui n'est pas suffisamment démocratique et ne laisse pas suffisamment de place à l'intervention des habitants organisés ou seuls, etc. Et donc, il fallait essayer la forme SCIC, SCIC. Et la réponse que j'ai eue dans cette salle de la part même des responsables du contrat de ville, « Ah non, mais vous savez que c'est une forme commerciale, c'est pas possible. » Donc, il y a, quand on a des gens qui connaissent mieux la réalité et qui sont centrés sur la finalité des centres sociaux, et quand ils entendent ce genre de questions, ils ne sont pas scandalisés. Ils permettent qu'on se questionne sur tout ce qui pourrait mieux servir les habitants et leur permettre d'agir dans le sens de leurs intérêts, dans le sens de l'intérêt général, dans le sens de l'amélioration de la vie en société, dans le sens même de la transformation sociale pour qu'il y ait plus de justice sociale et un meilleur vivre ensemble. Merci.
Du coup, je vais répondre rapidement sur la question que ça change chez les chercheurs. Alors, je ne peux pas parler au nom de toutes les chercheurs et chez tous les chercheurs du programme Engagir, hein, parce qu'en plus, on n'a pas encore complètement pris, malgré tout, ce temps-là entre pairs pour faire le bilan sur qu'est-ce que ça avait changé, interpellé, ce qu'on avait trouvé facile, pas facile, productif ou pas. Donc je ne vais pas parler au nom de tout le monde. Juste indiquer que d'une certaine manière, s'engager dans ce type de recherche, ça pose aux chercheurs, me semble-t-il, au sens large, le même genre de questions que celle du pouvoir d'agir des habitants pose aux professionnels. Ça déstabilise. Hein. Beaucoup de choses, et ça déstabilise notamment des positions de savoir. Arriver à fabriquer des manières de faire qui à la fois respectent la diversité des savoirs et des manières de produire des savoirs, celles des chercheurs, mais celles des autres acteurs sociaux aussi. Donc arriver à trouver des modes de fonctionnement qui à la fois respectent cette diversité, qui respectent la légitimité de chacune de ces formes de savoir, tout en affirmant leur égalité fondamentale, hein, c'est un exercice compliqué pour tout le monde. Et c'est un exercice compliqué aussi parce que si je file la métaphore de la comparaison avec les professionnels du social, hein, les formations universitaires dans nos contrées ne favorisent pas forcément non plus ça et ne valorisent pas ça forcément. C'est-à-dire que les modalités de rétribution et de reconnaissance des carrières académiques, elles sont principalement individuelles. On nous encourage à coopérer, à collaborer, à faire des programmes de recherche, mais quand même ce qui est important c'est que son nom soit le premier sur un article pour les comptages de succès. On est aussi beaucoup évalué sur le nombre de personnes qui vont lire nos articles, par exemple. Et pour qu'on soit dans bien coté, il faut que nos articles ils soient personnels. Enfin, voilà. Donc il y a un tas de contraintes aussi dans l'évaluation du métier de chercheur qui sont les contraintes du système social, économique et politique actuel qui vont pas forcément en faveur de formes de recherche plus horizontales, plus égalitaires et plus collaboratives. Donc ça, c'est certainement des choses qui sont secouées par la recherche collaborative. En même temps, on est dans un contexte aussi où paradoxalement, c'est des recherches qu'on le vend en poupe. Hein. À la fois du point de vue de certaines institutions publiques. La Fondation de France vient de faire cette année le premier prix de la recherche participative, qui a récompensé financièrement trois projets de recherche qui justement associaient des chercheurs et des acteurs sociaux autres. Donc il y a des formes de reconnaissance qui commencent à exister. Juste pour dire que cette question-là de la recherche... Enfin, d'autres manières de faire de la recherche qui sont pas exclusives et qui peuvent s'intercaler. Voilà, on peut faire aussi par moments des recherches classiques et à d'autres moments des recherches collaboratives. On n'est pas obligé de faire tout le temps de la recherche collaborative. Mais juste pour dire que c'est... Enfin, de mon point de vue, là je parle plus en nom propre, pour moi c'est une vraie question démocratique aussi de comment on conçoit notre métier de chercheur et la dimension politique qu'on donne à notre métier de chercheur. Et que c'est... Du coup, c'est aussi... Voilà, ça convoque aussi un tas de discussions et de prises de position dans le milieu des chercheurs sur la manière dont on conçoit notre rôle social et politique en tant que chercheur dans la société. Et là-dessus, c'est bien normal. On n'a pas forcément les mêmes visions et les mêmes conceptions, mais c'est aussi en les explicitant qu'on s'enrichit.
Il y a deux autres questions.
Merci. Je voudrais répondre à la jeune femme qui est devant, qui a parlé à l'instant de qui a parlé de personnes dont on a peu parlé, telles que par exemple les adhérents, les gens qui participent aux activités des centres sociaux, etc. Alors je vais répondre de ma place d'animatrice à la démarche participative dans un centre social jusqu'au 31/12/2019. Et je peux en parler parce que ce que j'ai envie de dire, c'est de faire un lien avec ce qu'on a dit ce matin sur le code de la parole. Je pense que aller vers la transformation sociale via le DPA, le processus de DPA, etc., c'est aussi s'approprier un vocabulaire. Et ce vocabulaire, quand la personne qui est salariée, professionnelle, se l'approprie, il faut qu'il le partage, il faut le transmettre. Et dans ma façon de travailler avec le public du centre social, j'avais vraiment cette force, cette énergie à pouvoir parler vrai. C'est-à-dire, si j'employais le mot transformation sociale, je savais très bien que devant un certain public, je parlais peut-être un petit peu chinois, voilà, et puis plein d'autres mots comme ça. Et en fait, là où je peux dire que j'ai pu voir du changement, c'est en particulier auprès de la commission des usagers, dont j'avais la charge de l'animer. Et quand je parlais à la commission des usagers, où là c'était des gens lambda qui étaient là, beaucoup ne connaissaient pas justement des termes que j'employais, du type coopération, contribution, intelligence active, etc., etc. Mais ce que je me suis aperçue, c'est à force d'employer ces mots-là, les gens se l'approprient aussi, c'est-à-dire que les gens sont capables d'appropriation. Et partir de ce principe-là, c'est œuvrer aussi pour la transformation sociale. Et à partir de ça, des gens qui étaient à la commission d'usagers sont venus pour s'impliquer eux-mêmes, pour devenir plus acteurs dans le centre social. De la même façon, j'ai été la même, voilà, c'est un savoir-être, j'ai envie de dire, avec des enfants. Et donc avec les enfants, par exemple, avec le CLAS, ce qu'on appelle le contrat local d'accompagnement à la scolarité, je parlais de la même façon aux enfants. C'est-à-dire que je leur parlais de bien commun, de contribution, de coopération, de collaboration. Voilà, on participait tous ensemble. Et je vous jure que les enfants, il n'y a même pas besoin de leur expliquer. Voilà, ils comprennent. Et l'appliquent aussi. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je voulais dire, c'est que c'est important d'oser parler autrement. Voilà, parce que c'est ainsi que la transformation sociale se fait petit à petit. Voilà. Merci.
Bonjour, je m'appelle Johan, je suis d'un hors de la Fédé des centres sociaux. J'ai participé à pas mal de temps sur le pouvoir d'agir et engagir. Et de mon point de vue extérieur, c'était quand même intéressant. Moi, à chaque fois, en réunion d'équipe, je reviens, et puis avec les stagiaires, on fait des retours, en fait, et ça nourrit, en fait, plein d'échanges. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des choses positives. Enfin, là, depuis tout à l'heure, j'entends des choses, j'ai l'impression que c'est des choses plutôt internes, et j'entends qu'il y a besoin de faire des points et de remettre à plat des choses. C'était une première fois, forcément, il y a des choses qui ont peut-être pas été comme il faut, mais peut-être parler aussi de ce que ça a produit concrètement, parce que ça a permis de dégager des espaces, des temps, des lieux, que ça a impacté, et comment concrètement. Parce que c'est ça, moi, que je trouve intéressant. L'intervention de tout à l'heure sur le monsieur de Nanterre, j'ai trouvé ça génial. Mais les échanges de machin et bidule et trucs... moi, d'extérieur, ça m'intéresse peu.
Merci. Encore une remarque. Et après, moi, je poserai une question aussi.
Oui. Alors moi, j'hésitais à intervenir parce que j'avoue que sur l'épistémologie, je n'ai même pas compris au début. Enfin, voilà. Et puis c'est très interne tout ça. Et puis c'est vrai que c'est très négatif tout ce qu'on a entendu sur les tensions qu'il y avait entre dans cette recherche. Alors après, c'est normal. C'est toutes les difficultés qu'il y a eu à avoir la recherche, dans cette recherche. Mais ce que je voulais dire, c'est que du point de vue de Pluriel, nous, ça a été très positif parce que en fait quand on est dans un centre social on passe notre temps à courir et qu'on n'a jamais le temps de se poser, de réfléchir ensemble. Les réunions d'équipe finalement c'est que le prochain projet, on y va, on fait vite fait le bilan de ce qu'il y avait avant et puis des fois on le fait même tout seul, même pas collectivement parce qu'on n'a pas le temps. Enfin bref, on passe notre temps à courir et là ces journées là ça a permis de s'arrêter, de poser les choses, de réfléchir tous ensemble avec d'autres collègues, de ramener aussi toutes ces notions dans le centre social. Après, un centre social, c'est aussi un turnover très important au niveau du personnel. Les nouveaux qui arrivent, il faut reposer les choses, réexpliquer tous les mots, le pouvoir d'agir. Finalement, personne n'avait la même notion de ce que ça pouvait être. Moi, j'ai vraiment une vision positive de cette recherche. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire.
Merci.
Nous aussi, on a une vision positive. Hein. C'est vrai que la tonalité générale peut donner cette impression-là, mais en même temps, je pense que c'est parce que forcément, l'exercice réflexif, il vise aussi à appuyer là où ça fait mal, et à appuyer là où ça fait mal pour faire mieux la prochaine fois. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas que du négatif, c'est précisément du positif. Voilà. Donc, mais nous aussi, on est très contentes d'avoir participé à tout ça.
Oui, je vais rajouter juste trois petites choses sur la plus-value de la recherche collaborative. C'est vrai que on a fait un retour réflexif sur la recherche collaborative, donc dans les différentes instances de cette recherche-là. Et évidemment, j'espère que ça produit des choses positives dans les centres sociaux, parce que sinon, ça va... Enfin, personnellement, ça va me déprimer. Mais donc je sais que ça produit des choses. Et du coup, sur la plus-value, moi, je pense que c'est aussi cette approche ethnographique par la présence des chercheurs dans les structures. on peut, entre nous, on l'a fait, d'ailleurs on l'a présenté ce matin, hein, depuis 2010, travailler sur la question de participation et de pouvoir d'agir. Il y avait quelque chose là qui nous empêchait d'aller plus loin. Et je pense que la présence des chercheurs pendant deux ans, c'est long, et en même temps c'est très court. Hein. Je pense que la recherche, elle aurait pu encore durer, il aurait fallu, pour pouvoir tirer aussi d'autres enseignements, il aurait fallu que ça dure plus longtemps. Mais c'est déjà le temps qu'on a pu prendre pour se questionner sur cet axe-là, et ça permet aussi de produire des échanges entre les centres encore plus aujourd'hui qu'hier, quoi. Donc bien sûr, ça a des effets positifs.
Et je voulais juste dire à Matou que les chercheurs, c'était des lanceurs d'alerte, et de mes plus lointains souvenirs, je me suis toujours dit que les centres sociaux étaient des lieux de démocratie. Enfin, il y avait des lieux en France où on acceptait les invisibles, les gens qu'on ne voulait pas entendre. Alors les médias, tout ça, pour moi, ça ne parle pas. Mais là, au moins, il y avait des chercheurs dans notre journal qui s'appelle La Voix des Femmes à la Rabière, et qui ont vécu avec nous nos ressentis, notre vécu, tout ce qu'on vit dans les quartiers populaires, tout ce qu'on raconte de nous dans les médias qui nous s'acharnent contre nous. Donc là, au moins, il y a des personnes qui peuvent refléter et rapporter la vraie parole des habitants et vivre avec nous le concret et la réalité. C'était que du positif pour nous d'avoir avec nous Valérie Cohen. Voilà, je tenais à dire ça.
Oui, alors moi je voulais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit aussi, dans le sens où on a vécu aussi avec une chercheuse de CITER une expérience très très intéressante sur le quartier du Sanitas à Tours, parce qu'en fait on a formé suite à des projets de démolition d'immeubles, donc de logements sociaux, puisque c'est un quartier prioritaire de la ville, et bien donc il y avait toutes ces problématiques de démolition d'immeubles dans le cadre de de l'agence de rénovation urbaine. Donc, Gulcine Lelandais est venue à nos côtés, dans notre collectif d'associations avec des confédérations du logement et d'autres associations comme ATD Garmonde. Et on s'est mis ensemble et on a essayé de faire cette démarche collaborative. C'était pas simple parce que les habitants, c'était violent pour eux, bien sûr, de voir que leur logement allait être démoli. Alors, elle nous a permis de prendre du recul sur ce quartier, de voir le pourquoi des choses, la gentrification. Elle nous a permis de voir comment était le quartier d'une autre façon, hein, tout ce patrimoine qu'il a finalement culturel, la mixité, on a beaucoup parlé de mixité sociale, pas au même sens que peut-être certains l'entendent, comme quoi il faut que dans les quartiers, on démolisse certains logements sociaux pour mettre des résidences privées. Et nous, ce qu'on disait, mais quel est le projet du quartier et comment il va y avoir le lien entre toutes ces personnes qui sont de milieux différents, etc. Ça, c'était pas tellement pensé. En tout cas, cette chercheuse, elle nous a permis de prendre du recul. Il y a eu une conférence dans le cadre de l'Université populaire de Tours. Elle nous a dit que à travers la France et à travers le monde, il y a ce même mécanisme, cette même conception des quartiers prioritaires que l'on doit un peu démanteler, hein, le démantèlement du logement social en particulier. Hein. Et donc, elle nous a parlé de tout ce qu'elle, de sa recherche aussi bien en Turquie, en Russie, etc. Et je trouve que ça donne une dimension beaucoup plus universelle de ce qui se passe partout finalement, hein, dans ces quartiers, comment on envisage cette mixité sociale. Et là, moi, je dois dire que au niveau du centre social, pluriel d'ailleurs, il y a vraiment ce souci là de se dire que dans ce quartier, il faut du lien social, et que ce lien social, il peut déboucher sur bien d'autres dynamiques, hein, particulières. Le logement et l'emploi, etc. Donc c'est en cours, et franchement ça, c'est encourageant, parce que il y a des confrontations, mais quelque part ça nous a permis de réfléchir à tout ça. Voilà. Donc on vous dit merci.
S'il n'y a plus d'autres questions, on va peut-être terminer cette partie-là. Donc, je comprends tout à fait qu'il y ait pu y avoir des attentes sur les deux autres contributions qui étaient prévues pour cet après-midi, sur cette question de formes de recherche participative ou de croisement des savoirs, comme le pratique ATD Quart-Monde. On va faire en sorte que dans les documents qui vont être issus du travail Engagir, il y ait aussi dans les écrits soit des ressources, des liens vers des choses qui existent déjà, soit des contributions de ses collègues qui permettront d'alimenter la discussion, même si elles n'ont pas pu être physiquement là aujourd'hui. Donc là, pour détendre un peu l'atmosphère, non pas qu'elle soit tendue, mais pour changer un peu d'atmosphère, hein, on vous propose de passer à un petit temps d'atelier coproduction des savoirs. Donc, organisez-vous sans trop bouger pour former 4 groupes de chaque côté de l'allée centrale, à peu près, hein. Des groupes voilà, d'une dizaine de personnes en fonction de. Voilà, en vous associant avec vos voisins et voisines. Très courtes, hein. S'il y en a qui ont besoin de s'absenter pour divers besoins. C'est possible, mais pas trop longtemps. Et donc, juste pour, avant que tout le monde s'en aille, que j'explique rapidement l'exercice qui est proposé. C'est donc, comme on le disait ce matin, à la fois pour marquer aussi l'intérêt qu'on peut éprouver les uns et les unes ou les autres pour ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe depuis un mois, et pour alimenter aussi la réflexion collective et notamment en vue de la session de demain matin sur les questions de politisation et d'engagement, on vous propose de discuter par petits groupes là, d'une petite dizaine de personnes en fonction de comment vous vous répartissez sur la mobilisation sur la réforme des retraites. On en parle dans votre centre social ou pas? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Et qu'est-ce qu'on fait? Ou qu'est-ce que vous faites? Ou qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui pourrait être fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de faire ou de dire autour de cette question du mouvement social actuel sur la réforme des retraites dans les centres sociaux? Voilà.